La vie est belle.
Moi, je m'en fous.
Les hommes la compliquent.
Moi, je m'en fous.
Pourquoi fabriquer?
Moi, je m'en fous.
Des machines à tuer.
Et moi, je m'en fous.
Si on n'est pas capable.
Moi, je m'en fous.
De guérir les maladies.
Et moi, je m'en fous.
C'est comme ça aujourd'hui.
Et moi, je m'en fous.
Un visiteur qui rentre dans une école du troisième type est toujours surpris et quelque peu déstabilisé. Il rentre dans une fourmilière. Mais qu'est-ce qui peut réguler tout cela? Se doutant qu'il entend peu l'enseignant, parfois il se demande même où il peut bien être. Il se doute bien qu'il y a quelque chose qui régit tout cela parce que le désordre apparent se déroule dans le calme et la tranquillité, dans une organisation qu'il n'arrive pas à saisir. Si le visiteur est enseignant, il se demande bien comment il pourrait mettre cela en place en retournant dans sa classe, si tant est qu'il en a saisi l'intérêt. Un enfant qui rentre aussi pour la première fois dans une école du troisième type rentre dans une entité sociale déjà constituée. Il rentre dans une histoire à laquelle il va contribuer, mais aussi dans laquelle il va devoir s'insérer. C'est une des particularités du multi-âge dont nous avons déjà parlé. Surtout s'il vient d'une école traditionnelle, il va lui aussi être déstabilisé. Il va attendre les ordres à exécuter, les consignes à respecter, qu'on lui dise ce qu'il doit faire docilement. Si le premier jour, il peut apprécier cette école où l'on fait ce que l'on veut, ce qu'il traduira par une école où l'on s'amuse, ou bien une école où l'on ne fait rien, il risque fort d'être ensuite désemparé pendant quelques jours, et il faudra une attention particulière de l'enseignant, une période de transition pour qu'il puisse s'emparer de façon autonome de ce que j'appelle une liberté sociale. On le sait, la liberté parmi les autres, fait peur, puisqu'elle oblige à s'assumer, à prendre ses risques. Ceci est encore plus valable pour les adultes. Mais aussi, la liberté des autres vous entraîne dans la vôtre, en même temps que dans ses contraintes. Dès la première réunion, cet enfant va découvrir l'expression « confiante des autres ». Parce qu'il faut pouvoir avoir confiance aux autres, en même temps que confiance en soi, pour exprimer ce que l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on désire, ce que l'on propose. Il faut pouvoir se libérer des jugements individuels, comme du jugement social, pour oser être différent, pour oser s'affirmer face aux autres, avec les autres et avec l'aide des autres. C'est la première condition pour qu'un groupe social se constitue et que chacun se socialise dans ce groupe.
La vie est belle,
et moi je m'en fous.
Les hommes la compliquent,
et moi je m'en fous.
La vie est si précieuse,
et moi je m'en fous.
Elle est ce qu'on en fait,
et moi je m'en fous.
Nous sommes tous responsables,
et moi je m'en fous.
La vie est belle.
Lorsqu'il commencera à son tour à s'exprimer librement, lorsqu'il s'apercevra qu'il sera écouté, lorsqu'il commencera à écouter et s'intéresser aux autres, il s'apercevra que pour ce faire, le groupe suit des règles qui le permettent, le plus souvent implicites. Les premières règles sans lesquelles on ne peut pas être perçu. Et puis il s'apercevra que de l'expression de soi peut naître une infinité de projets qu'il n'aurait pas imaginés auparavant. Ces projets ne devront pas forcément être scolairement corrects pour être réalisés. Mais ils devront être réalisables dans l'espace et le temps de l'école, parmi ou avec les projets des autres. Ce n'est pas le jugement ou l'approbation des autres ou d'une autorité qui en reste la condition, mais leur faisabilité au sein du collectif et de son environnement. Ce qui est impossible sans un aménagement et les règles d'une organisation. Ou celles existantes le permettent. Alors il faudra que notre enfant les intègre et les applique. Ou elles ne le permettent pas, et il faudra alors envisager de les modifier, de se réorganiser. Notre enfant avec ses envies et ses besoins de faire, pourra être à l'origine d'une modification de l'organisation, peut-être l'origine d'une nouvelle règle à l'élaboration de laquelle il aura participé. Il saura que perturber n'est pas un délit social quand la perturbation consiste à revendiquer les transformations qui permettent à chacun d'exister, sans perturber l'existence et les agir des autres. Il saura à moult occasions que contester les règles quand elles ne permettent plus l'existence de chacun au sein des autres est une nécessité sociale sans laquelle une société ne peut fonctionner. Et notre enfant va encore s'apercevoir que la réorganisation permanente dans l'intérêt de chacun doit elle-même s'organiser. Sans le groupe, chacun n'est rien et surtout ne peut rien. Mais ce groupe doit pouvoir fonctionner. Il doit pouvoir produire des consensus beaucoup plus que des compromis qui laissent des laissés pour compte. Dans l'embryon de structure mise en place, la réunion, celle-ci doit elle-même s'auto-organiser pour permettre l'auto-organisation. L'enfant est au sein même et acteur de ce qui produit des règles, de ce qui est la source sociale. Il ne subit pas ce qu'on appelle par ailleurs l'État, il est co-auteur de l'État. Dans une école du troisième type, nous sommes beaucoup plus loin que ce qui se qualifie de démocratie. Il n'y a pas le pouvoir d'une majorité sur une minorité. Le vote qui de fait crée et nie les minorités est rarissime. On ne retrouve le vote que pour les choix d'action collective quand leurs intérêts sont équivalents mais qu'ils ne peuvent tous se réaliser. Le choix alors ne pénalise personne et chacun peut l'accepter.
La vie est si précieuse,
et moi je m'en fous.
Elle est ce qu'on en fait, elle est ce qu'on en fait, elle est ce qu'on en fait,
et moi je m'en fous.
Nous sommes tous responsables, nous sommes tous responsables, nous sommes tous responsables,
et moi je m'en fous.
La vie est belle.
Il est courant aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles, d'élire ou de désigner des responsables. Cela remonte à Barthélemy Profit. Créateur et promoteur de la coopération à l'école, il s'agissait bien d'un apprentissage à la démocratie en calquant les institutions de la coopérative scolaire sur celles de la République et sa morale. Les pouvoirs et champs d'action de la coopérative se réduisant à l'époque à l'annexe scolaire. Alimentation d'une caisse par des cotisations, fêtes scolaires, ventes de production et gestion de la dite caisse pour l'amélioration des locaux, des voyages scolaires, l'achat de matériel non scolaire. Chez Freinet, la coopération est plutôt née de la nécessité de gérer les activités nées de la pédagogie active. La réalisation d'un journal scolaire nécessitant que l'on s'organise, que l'on choisisse les textes à publier, que des équipes le composent, l'impriment, que l'on achète l'encre, donc qu'on vende le journal, etc. Peu à peu, l'organisation coopérative a recouvert un champ plus vaste concernant le fonctionnement de la classe, sans jamais recouvrir complètement toute son activité et tout son temps, une bonne partie ne relevant que du maître. Dans tous les cas, élire ou désigner des responsables fait partie de la socialisation. Dans la pédagogie Freinet, il est important que chacun puisse être responsable de quelque chose ou d'être responsable à tour de rôle. Freinet partait aussi de l'a priori que dans les groupes sociaux, il y a naturellement toujours des leaders et qu'il était important que chacun puisse l'être dans un domaine ou un autre. A priori que je conteste dans une école du troisième type. Je m'en expliquerai. Cela part d'une bonne intention et de la réalité qui fait que tout groupe social peut avoir besoin que des tâches nécessaires à son fonctionnement et son bien-être soient assumées par des individus. Dans la famille, pour l'enfant, c'est une répartition autoritaire. C'est à toi de débarrasser la table. Dans la société, normalement, c'est l'ensemble de tous ces individus qui participent à ce partage. On le nomme alors le travail, et on ne devrait pas dire « il faut travailler pour gagner des sous » ou pire, « pour gagner plus ». Mais il faut assumer des tâches utiles aux autres pendant que les autres assument des tâches utiles pour toi. Cela doit vous faire rire, parce que le travail est loin d'être considéré sous cet angle, si tant est qu'il ne l'ait jamais été. Nos sociétés ne sont pas encore socialisées. Dans la pédagogie du travail de Freinet, il y avait pourtant cette vision noble du travail et du partage du travail. Cependant, dans les micro-sociétés que sont les écoles, la manie d'élire ou de désigner des responsables aboutit à des effets contradictoires. D'abord parce que de facto, répartir des responsabilités déresponsabilise les autres. Une société responsable ne peut être que celle où chacun assume ce qu'il doit faire parce que sans cela, l'ensemble dysfonctionne au détriment de chacun et de lui-même. Désigner par exemple un responsable du rangement signifie que le rangement n'est plus assumé par chacun. Soit le responsable pallie les insuffisances des autres, soit il lui est conféré un pouvoir de surveillance, voire de délation. Et il peut se retrouver lui-même accusé du dysfonctionnement. Dans notre exemple, et dans une école du troisième type, ce qui renvoie à la responsabilité de chacun en même temps qu'à l'organisation, c'est simplement que le dérangement empêche le déroulement des projets, donc de la vie, puisque les projets recouvrent la totalité du champ scolaire. L'atelier musique n'est pas rangé. Il n'est plus possible à personne d'y faire de la musique, y compris à ceux qui l'ont dérangé. Le dysfonctionnement touchant le collectif dans ses agirs, le collectif et chacun dans le collectif a intérêt à le résoudre. Je n'ai jamais constaté de cas où, après une ou deux interruptions et une ou deux réorganisations, un atelier ne retrouve pas un fonctionnement harmonieux, sans responsable, sans surveillance, sans accusé, sans sanction. Naturellement, peut-être aussi, parce qu'on élimine ainsi l'accusation qui fait malheureusement partie de ce que l'on prend souvent comme outil de la socialisation. C'est à cause de un tel, c'est lui le responsable. Et voilà le terme qui prend un autre sens, qui va même justifier que par la suite, on fuit à juste titre les responsabilités. Ensuite aussi parce qu'être responsable peut conférer une valeur, un statut privilégié, un pouvoir. Être président. Ce n'est plus alors une tâche à effectuer pour l'intérêt du collectif, mais un titre à rechercher, à conquérir et à conserver. Je ne m'étendrai pas sur ce qui motive la majorité des responsables politiques. La responsabilité n'étant alors qu'un fallacieux prétexte, puisque chacun peut être responsable de n'importe quoi, pourvu qu'il y ait le titre. Je ne parlerai pas des responsabilités qui constituent à assumer à la place du maître ou à le remplacer, celles-ci n'ayant évidemment aucun intérêt pour le collectif et sa vie. Responsable décaillé. La notion de responsable est donc à utiliser avec prudence et surtout pas pour imiter une société qui l'a vidée de son sens. Une vraie socialisation n'est pas l'imitation d'une société, pas plus qu'elle ne peut être la préparation à une société fantasmée, prédéterminée par ceux qui n'ont pas pu la réaliser. Ceci est pour moi fondamental et ne fait que prendre en compte ce qui est la loi des systèmes vivants qui ne peuvent que s'auto-créer.
La vie est belle,
moi je m'en fous,
disait le vieux Malinké.
Moi je m'en fous.
La vie est belle,
moi je m'en fous,
les hommes la compliquent.
Moi je m'en fous.